Culture 101, épisode 30. Et oui, la 30e, c'est parti avec au sommaire ce soir. Eh bien, lancions un but partout. On va revenir sur cette rencontre. On va décortiquer son incidence au classement, etc., etc. Deuxième point, eh bien, en avril, les joueurs défilent. Oui, c'est un adage dans le monde du foot. Le mercato est quelque part déjà un petit peu lancé. On en viendra, eh bien, juste avant notre pause, avant l'incontournable quiz qui nous attend également. On va voir qui sera le meilleur chez nos consultants ce soir. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission de Culture 101, on va se projeter sur le prochain rendez-vous. Ce sera Lens-Lorient. Bonsoir à tous, amis et amis, supporters et supportrices du Racing Club de Lens. On vous le rappelle, vous pouvez suivre Culture 101 sur toutes nos plateformes sociales. Il y a bien sûr Facebook, il y a Twitter, il y a également YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, partager, retweeter et puis donner aussi vos commentaires sur l'ensemble de ces plateformes. On va y jeter un œil régulièrement et on passera les meilleurs commentaires à l'antenne. Dans quelques instants, c'est notre première période, mais avant de faire cette première mi-temps et de donner le coup de sifflet, eh bien, on va présenter l'ensemble de mes acolytes de ce soir. Il est d'habitude sur RTL avec son petit casque, on dirait un petit lapin de Pâques. Bonsoir Samuel Duhamel.
Salut Sylvain, bonsoir à tous.
Eh Grégory Lallemand, on ne rigole pas avec l'œuf en chocolat caché sous le pull à la place du ventre. Attention, bonsoir Grégory Lallemand de la Voix du Nord.
Salut à tous. Effectivement, j'ai peut-être un peu exagéré aujourd'hui et mon fils a dû voir quelques œufs disparaître du paquet. Voilà.
Ah là là. On a aussi notre petit poussin parce qu'il quick sur Twitter. Bonsoir Antoine de Voleur Mécanique.
Salut à tous.
Et puis le dernier petit nouveau, il nous rejoint aujourd'hui. Il va nous sonner les cloches si on part un petit peu de travers. Eh bien, pour l'AFP, Hugo Noé, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission.
Ah, c'était avec grand plaisir. Et bien justement, Hugues, on va te donner la parole en premier. Il y a eu un match, c'était Lens contre Lyon, un but partout. Qu'as-tu pensé de cette rencontre?
Il y a un paradoxe qui est que Lens est cinquième, Lyon est quatrième, et pourtant on se satisfait d'avoir fait un match nul à domicile contre Lyon. Ben, c'est logique, c'est parce qu'on a vu un gros engagement, une grosse intensité. Les professionnels vous le diront tous, hein, quand on a une trêve internationale comme ça, il y en a peu qui sont partis jouer avec leur équipe. Il faut continuer à garder le rythme, il faut, malgré le manque de compétition, se remobiliser au bon moment. Donc j'avais moi une légère crainte que ce soit difficile, que les Lensois aient du mal à rentrer dans cette rencontre. Ça n'a pas du tout été le cas, ils sont vraiment venus avec les meilleures intentions. Ils sont pas loin de gagner contre un très gros Lyon, encore une fois, qui fait un match bon, correct, pas exceptionnel. Et ce score, moi, je le trouve presque un peu injuste. Lens est passé pas loin de la victoire, mais le contenu, lui, il est très, très satisfaisant.
Alors Antoine, si on doit, de ton côté, donner un avis sur ce match.
Ouais, bah c'est un peu le même ressenti de mon côté, c'est-à-dire que on a vu un Lens effectivement avec plusieurs facettes dans ce match. Un Lens qui a commencé avec une grosse domination, un gros pressing lyonnais, j'ai trouvé, jusqu'à la 15-20e minute. Et puis après, on a su prendre la mesure de ce rapport de force, de ce pressing assez haut quand même des Lyonnais en début de rencontre, pour imposer également notre rapport de force. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant que là, dans cette dernière ligne droite, on puisse être en mesure de rivaliser sur un tel match avec le deuxième budget de Ligue 1, avec une équipe qui va jouer la course au titre ou de la Ligue des Champions jusqu'à la 38e journée. Et j'ai trouvé aussi que ce qui était intéressant à noter, c'était les gros progrès qu'avait fait l'équipe, l'effectif, notamment par rapport au match aller.
Sam, à toi.
Moi, je me suis régalé. Déjà, j'ai trouvé que c'était un top match de Ligue 1. Je trouvais que le Racing avait fait un gros match défensivement, offensivement, avec beaucoup de rythme. Qu'ils avaient regardé Lyon les yeux dans les yeux quasiment pendant toute la rencontre. Alors, j'étais pas forcément déçu du résultat. Je trouvais que c'était un score équitable, ce match nul, parce que faut pas oublier que les Lyonnais, ils ont eu quand même beaucoup beaucoup de situations. Jean-Louis Lécart, on aura l'occasion d'en parler, a fait un énorme match. Alors évidemment, il y a toutes ces situations en première mi-temps où où Lens peut prendre l'avantage, mais globalement, je trouvais que c'était un résultat assez logique. Mais j'ai trouvé, enfin, moi, je suis bluffé par cette équipe. Hein, je la suis semaine après semaine et j'ai l'impression que quasiment semaine après semaine, elle progresse. Et disons que j'ai l'impression que les voyants sont ouverts pour la fin de saison et qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver.
Alors Greg, on va passer à toi. 2 minutes sans t'entendre, c'est quand même rare.
Ouais, c'est vrai.
Donc maintenant, on te laisse la parole.
Bon, bah, j'ai 58 minutes devant moi, ça va être marrant. Non, plus sérieusement, je vais reprendre moi. Alors, déjà, je suis d'accord avec Samuel Duhamel, hein, ça doit être l'effet Pâques. On est tous de bonne humeur. Non, plus sérieusement, je vais reprendre un peu ce qu'avait dit Gervais Martel, moi, quand il est venu dans l'émission il y a 15 jours. Il avait dit Lens s'attaque à 4 fois le Tourmalet. Et il faudra évidemment voir comment cette équipe elle réagira devant l'adversité. Il y a 4 gros clubs qui arrivent. Et ben il y en a déjà un de passé. Et franchement, on n'est même plus étonné de voir cette équipe de Lens regarder ces équipes-là droit dans les yeux, parce que en gros elle a battu Paris, elle a battu Monaco, elle a battu Rennes, elle a battu Marseille. Aujourd'hui. Elle a fait un match, en tout cas samedi, elle a fait un bon match contre Lyon. Effectivement, sur l'ensemble du match, c'est mérité. Je pense que c'est un score assez logique. Mais voilà, cette équipe, elle joue crânement sa chance. Et comme l'a dit un peu Antoine, l'entame de match dans un système un peu particulier, hein, ça fait que quelques matchs que cette équipe, elle joue avec deux attaquants, enfin un seul attaquant et plutôt Gaël Kakuta derrière un attaquant. Je pense que c'était volontaire, c'était une volonté de pas laisser trop d'espace aux Lyonnais qui ont quand même une triplette offensive. Quand vous avez Toko Ekambi, Kadewere et Depay, vous avez de quoi faire. Et cette équipe, elle a bien résisté, même si parfois ça a été un peu chaud. Et derrière, dès qu'elle a pris confiance, elle a été au moins aussi dangereuse que l'Olympique Lyonnais. Donc oui, ça reste une très très belle performance. Même si prendre un but à la 81e dans un match comme ça, où Lens a tout donné, il y a toujours peut-être un petit sentiment de regret, mais ça reste vraiment très, 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 très encourageant.
Alors, on va revenir après sur le schéma tactique, sur la performance collective, sur l'arbitrage aussi, forcément, vous en doutez. Mais juste avant ça, sur un plan comptable, est-ce que vous estimez que ce match nul, c'est une bonne opération ou pas ? Avant le match, on aurait certainement signé. Au final, vu la physionomie, est-ce que c'est une bonne opération ? Qui attaque ?
Ouais. Bah, j'y vais. Allez, bien sûr. Bien sûr, c'est un bon point. En fait, faut toujours, à mon avis, regarder les choses d'un point de vue, avec de la perspective et du long terme. Au début de la saison, on aurait certainement dit pour jouer contre Lyon dans la double confrontation, ça aurait été intéressant de prendre minimum 3 points. Maintenant, on se doutait bien que chez eux, ça aurait été difficile et qu'à domicile, on aurait globalement signé pour 1 point. Là, dans ce contexte-là, on joue dans le money time un peu de la saison, prendre 1 point contre l'OL, surtout après une trêve internationale. Et au regard des autres clubs qui sont un peu en concurrence avec nous, c'est, je pense, quand même une bonne chose. Et je rajouterais également qu'on continue une série quand même de 10 matchs sans défaite. Moi, personnellement, cette série de 9 matchs sans défaite qui précédait le match de l'OL me faisait un peu craindre l'issue de cette rencontre. Et en fait, on maintient une forme de solidité. Et je pense que plus que le comptable, le point, je trouve qu'il y a une forme de continuité qui n'a pas été en fait réalisée par cette trêve internationale. Donc, je trouve que c'est un bon point, ouais.
Sam, tu avais un petit peu le sourire quand j'ai posé cette question.
Non, ouais, j'avais le sourire parce que pour moi, c'est évident que c'est un bon point. C'est évident. Alors, on va parler de la physionomie du match et des actions, si vous voulez, dans quelques instants. Je regardais simplement, vous savez qu'on regarde beaucoup les expected goals, donc les buts attendus suivant les frappes. Là, pour le coup, en fait, Lyon était devant. C'est-à-dire qu'en fait, le score logique en termes de buts attendus, c'est 1 pour Lens et 2 pour Lyon. Donc, il y a déjà ça. Je peux vous dire qu'en conférence de presse, quand on voyait le visage de Franck Hez, qui avait le sourire aux lèvres et Rudy Garcia qui avait la tête décomposée, on comprenait que c'était également un bon point pour Lens. Et puis quand on regarde les résultats du week-end, même si Marseille a battu Dijon hier soir, bah moi je m'attendais pas à ce que les autres équipes ne reviennent pas sur Lens, et ça a été le cas. Alors que Rennes n'est pas revenu sur Lens, Montpellier n'est pas revenu sur Lens, voilà, tout ça confondu, pour moi c'est un très bon score.
Ouais, moi, je trouve que la position de Lens actuellement, c'est qu'on a envie surtout que cette équipe prenne du plaisir. Elle a déjà assuré ses objectifs et le fait qu'elle soit cinquième, c'est déjà tellement exceptionnel. On regarde même pas, en fait, le nombre de points pris. On regarde qu'est-ce qui a été produit comme jeu. Et si les autres reviennent derrière, tant mieux pour eux. Ils reviendront pas tous à chaque journée avec des victoires. Ça n'arrive jamais, en fait. Et le fait de prendre un point ou trois points, il fait ne fait plus tant de différence pour nous. L'important, c'est que Lens joue bien, Lens soit attirant dans le jeu, Lens nous donne du plaisir, et surtout, les joueurs eux-mêmes entraînent et se trouvent ensemble. La façon dont ce but a été marqué, ça, c'est très significatif. Lens a offert un jeu vraiment attrayant, et ça, on prend notre pied devant notre télévision, malheureusement pas au stade Félix Bollard.
Alors Greg, sur cette opération, alors sachant effectivement que les autres ne sont pas revenus, qu'il y a un Montpellier-Marseille en plus qui arrive.
Oui, non, mais d'accord. Alors en plus, c'est vrai que vu ce qu'a montré encore l'Olympique de Marseille hier, moi j'ai du mal. On a beau dire qu'ils ont un calendrier facile, je pense qu'ils vont avoir aussi des difficultés à gagner partout parce qu'ils sont quand même pas extraordinaires. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous. Ça reste frustrant quand tu mènes à 10 minutes de la fin, quel que soit le match. Alors oui, c'est Lyon en face. Oui, finalement les autres n'ont pas gagné, mais on peut qu'imaginer. Cette équipe, si elle avait pris 2 points de plus, elle se ferait un vrai joker qui n'était pas prévu au programme. Donc franchement, Hugues dit qu'il ne regarde pas. C'est vrai que le contenu était vraiment, je veux dire, exceptionnel pour un promu. On en est, comme je disais tout à l'heure, à même plus être surpris, alors qu'il ne faut pas banaliser ce qui est fait par cette équipe. À côté de ça, ouais, moi je pense que voilà, ça ne joue à rien. Et il peut quand même avoir une forme de regret. C'est évidemment pas les mêmes regrets qu'à Reims, par exemple, où l'équipe a vraiment surdominé le match. C'est pas le même regret que contre Metz, où on sentait que quand c'était au-dessus, il s'est plombé un peu le match tout seul. Là, c'est la qualité lyonnaise qui a fait aussi que cette équipe, elle a fini par craquer. Mais ça reste pour moi, voilà, il y avait vraiment un énorme coup à faire. Et surtout, psychologiquement, si tu bats Lyon, effectivement, tu dis, bah, en fait, le mois de mai, il paraît compliqué. Mais t'es capable de gagner contre. T'aurais battu Paris, t'aurais battu Lyon, t'aurais battu Monaco sur la saison. Et donc. En termes de confiance, ça aurait pu être aussi bénéfique. À côté de ça, ouais, un point il y a une semaine, je pense que tout le staff lensois et l'effectif auraient signé. Ça, c'est une évidence.
Sam, tu as levé la main.
Non, mais si tu veux, c'est par rapport à l'argument de la 81e minute. J'entends ce que dit Greg et il a parfaitement raison sur la physionomie du match et notamment les comparaisons avec le match à Reims et le match contre Metz. C'était pas du tout la même chose. Mais le but à la 81e minute, un match, ça se termine à la 95e. Hein. Donc derrière il y aura encore un quart d'heure, et puis en fait on connaît Lens cette saison. Lens, c'est une équipe qui va jouer à fond jusqu'à la 95e minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir pris le but de la 81e, ils peuvent très bien en prendre un deuxième à la 87e parce qu'ils vont jouer le contre à fond, et en fin de deuxième mi-temps il y avait des espaces de malades et ça aurait très bien pu basculer d'un côté ou de l'autre. Et là où franchement ça aurait été dur et ça aurait pu arriver, c'est si Lyon avait marqué à la 89e ou la 92e. Parce qu'encore une fois, les attaquants en soi, ils continuent d'attaquer. C'est dans l'ADN de cette équipe. Ils continuent d'attaquer, ils veulent aller chercher la gagne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça libère beaucoup d'espace. Donc, globalement, de mon point de vue, il n'y a pas trop de raison d'être déçu.
Alors Sam, tu me tends un peu la perche là en parlant de ce Lens qui attaque toujours, qui cherche toujours à produire du jeu. Et moi, il y a une période que j'ai bien aimée dans ce match, c'est les 20 premières minutes, parce que justement, Lens n'a pas forcément été dans ce Oura football, toujours vers l'avant, hyper offensif. On a vu une entame de match qui était plutôt tactique, qui s'est jouée sur le plan stratégique, et je suis plutôt satisfait, j'ai beaucoup apprécié ces 20 premières minutes, où bah, Lens, franchement, a... même s'il y a eu quelques frayeurs, bien évidemment, a réussi à tenir ce choc, alors que bah, peut-être qu'un peu plus tôt dans la saison, quand Lens jouait comme ça, il avait tendance à prendre des buts et peut-être un peu à passer à côté. Et là, j'ai trouvé ça plutôt cohérent et plutôt solide.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez? Antoine.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu ce qu'on se disait en préambule de l'émission. C'est que c'est intéressant de voir cette capacité aujourd'hui qu'on a absorbé justement des ondes de choc, entre guillemets. Là, moi, ce début de match, mon opinion, c'est vraiment que les Lyonnais nous ont vraiment mis un gros pressing. D'ailleurs, je crois qu'on entend hein, sur le match sur Canal que Rudy Garcia est très satisfait du premier quart d'heure de son équipe, parce que c'est vrai qu'ils sont très hauts. Hein, leur ligne de 3 vient très vite couper les lignes de relance de nos défenseurs. Ils sont vraiment bien en place dans notre camp. À un moment, il y a Fortes qui fait une relance un peu hasardeuse sur le côté gauche qui se traduit en fait en possibilité de contre-attaque qui finit par une faute de Fortes justement à l'entrée de la surface. Donc ça montrait bien que les Lyonnais étaient dans leur sujet. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est de voir qu'on a cette capacité à absorber cette onde, ces grosses phases de pressing d'équipe qu'on va bien entendu classer comme favorite dans un match contre nous. Et ensuite justement de petit à petit, ce que je disais tout à l'heure, de réussir à inverser un peu un port de force et d'imposer aussi un peu notre style, ce qui s'est un peu passé. Moi, c'est un peu cette action symbolique là où à un moment je sens que le bras de fer commence à se rééquilibrer. C'est quand Kakuta met un coup de rein fantastique à Thiago Mendes et où derrière on sent quand même que cette action, mine de rien, elle permet au bloc équipe peut-être de remonter un peu l'équipe, de reprendre un peu confiance. Et s'ensuit donc ces deux trois occasions assez nettes de la première mi-temps.
Greg, on t'a vu beaucoup hocher de la tête.
Ouais, mais non, mais c'est incroyable. J'étais d'accord avec Sam Duhamel, mais non, me voilà d'accord avec Antoine. Alors, ça va faire beaucoup pour la même soirée. Non, il a tout à fait raison. Et je pense vraiment que c'était volontaire, en fait, de jouer très bas d'entrée. La nouvelle tactique mise en place aussi, par Franck Hez depuis quelques matchs, celle, donc, on l'a dit, avec un seul attaquant de fixation. Et voilà, je pense c'est une équipe qui a, notamment à Lille, dans le derby, elle avait voulu vraiment jouer son football, un football offensif d'entrée. Elle avait été plantée, elle avait été peut-être un peu refroidie par ça. Et là, c'est une façon peut-être de mettre en place ce qui va pouvoir embêter d'autres équipes. Je pense à peut-être au LOSC, à Monaco ou à Paris. On parle de ces équipes qui ont une vraie qualité devant. Et effectivement, si cette équipe elle arrive à subir, alors elle l'a fait là très bien. Elle l'avait fait à Montpellier en fin de match quand c'était chaud. Elle l'a fait à Strasbourg aussi, parce qu'à Strasbourg, il y a cette victoire à Strasbourg. Évidemment, il y a eu beaucoup d'occasions lensoises aussi, mais sur les 20 dernières minutes, elle a su subir. Alors parfois, elle a un peu de réussite, évidemment, mais c'est quelque chose qu'elle ne savait pas faire. Je trouvais qu'en début de saison, par exemple, dès qu'il y avait un moment de flottement, un moment chaud dans sa surface, ça faisait but. Là, elle a une nouvelle facette. Alors je ne sais pas le curseur de est-ce que c'est volontaire, c'est pas volontaire, c'est une autre question. Moi, je pense que c'est volontaire. Et si elle sait subir et sait se projeter avec un Kakuta qui, en plus, a cette capacité à faire des passes qui cassent les lignes en une touche, lorsqu'il y a une équipe en face, en plus, qui laisse des espaces dans son dos. On l'a vu avec Seko Fofana qui est parti plusieurs fois dans le dos, avec Jonathan Klaus. C'est vraiment une nouvelle possibilité de faire mal et d'embêter les équipes adverses sur le plan tactique. C'est plutôt, si ça se confirme, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Hugues, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces 20 premières minutes du Racing ?
Alors, ces 20 premières minutes, je pense que c'est ça qui a pas plu aux téléspectateurs, c'est qu'elles étaient extrêmement tactiques. Pour les observateurs aguerris du football, c'était 20 minutes intéressants. Pour ceux qui veulent voir des frappes à tout va, c'était 20 minutes très pénibles. Moi, j'ai trouvé très intéressant, effectivement, que je suis d'accord avec les autres intervenants, Franquez mette en place quelque chose de différent auquel Rudy Garcia ne s'attendait peut-être pas, il avait peut-être pas préparé ça, et qui a permis de tester quelque chose qu'on n'avait pas vu. La saison dernière, ce qui avait été le problème de Franck Montagné, c'est qu'il n'avait pas de plan B. Il avait un plan de jeu qui avait bien fonctionné et à un moment, le plan de jeu ne fonctionnait plus et à ce moment-là, l'équipe n'avait pas su comment réagir et avait aligné des défaites. Avec Franquez, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en place quelque chose de différent alors même que les résultats sont très bons. Donc, il est capable de varier alors que c'est pas encore nécessaire. Et ça, pour la préparation de la saison prochaine, c'est vraiment excellent. Moi, je pense qu'on finira un très bon classement. Mais en plus, on aura une équipe qui aura plusieurs possibilités pour commencer la saison prochaine.
Et ce changement de tactique, vous ne pensez pas que quelque part, ça peut être un petit peu calculateur ? Est-ce que Lens n'est pas peut-être en train de calculer un petit peu la fin de saison, les petits points qu'il faut aller chercher ? Parce que maintenant, un point contre Lyon, comme on disait tout à l'heure, on aurait signé avant, finalement, on l'a. Est-ce que on n'est pas déjà dans cette démarche de se dire ça peut compter, ça peut valoir cher à la fin. Alors, Sam est d'accord et Greg n'est pas d'accord, visiblement.
Non, mais je pense qu'il va être d'accord avec moi encore une fois. Le non, parce que simplement Franck Hez, il était ravi de ce système. Il était ravi de ce 3-5-1-1. On va appeler ça comme ça. Alors je me souviens que Gervais Martel, quand il est venu dans l'émission, il trouvait que c'était un système qui n'était pas efficace. Et j'ai tendance plutôt à faire confiance aux techniciens qu'à Gervais par rapport à ça. Donc simplement, il était ravi de ce système, ce qui permet aussi quelque part d'avoir plus de de qualité offensive sur le côté gauche, parce qu'on sait que on l'a beaucoup dit, et ça a été le cas encore contre Lyon. Offensivement, le Racing a tendance à pencher un petit peu trop à droite. Là, avec Seko Fofana en perforateur sur le côté gauche, ça permet aussi d'avoir une assise qui est plus forte sur le flanc gauche. Et puis, moi, j'ai été marqué par mes collègues à Paris qui ont suivi le match. Ils ont été aussi fortement marqués par ce que Cahuzac apportait offensivement. Alors évidemment, on ne peut pas voir tous les matchs, mais eux, ils avaient encore, vous savez, l'image de Cahu en numéro 6, qui voilà, un petit peu en mode boucher, qui prenait des cartons jaunes. Et là, ils l'ont redécouvert. Alors, j'ai même un collègue qui l'a comparé à Xavi dans le jeu. Alors je trouvais ça un peu fort quand même, mais disons que je trouve que ce dispositif, il apporte beaucoup de garanties. Et effectivement, c'est la troisième fois consécutive qu'on le voit. Et je pense que Franck Hez risque de le ressortir face aux grosses équipes. Ça va être intéressant de voir s'il ressort déjà contre Lorient. Mais sur les trois grosses équipes qui arrivent, à mon avis, il va ressortir.
Alors, Grégory Lallemand, va être-t-il d'accord avec Samuel Duhamel ?
Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je réponds à ta question, Sylvain. Je pense pas que ce soit une forme de calcul. Et j'en veux pour preuve. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Que quand il est à deux partout contre Metz, c'est dans le dernier quart d'heure de ce match-là qu'on a vu pour la première fois cette tactique apparaître. C'est-à-dire que Lens allait chercher la victoire, il a fait rentrer Simon Banza et Gaël Kakuta autour de lui, et c'est la première fois qu'on a vu Lens vraiment avec un seul attaquant. Et pourtant, c'est un moment où l'équipe devait aller chercher la victoire, était au-dessus, et c'est là que ça a plu à Franck Hez. Donc je ne pense pas que ce soit une volonté de défendre un peu plus, ou en tout cas de commencer à calculer. Je pense qu'il a trouvé, une forme de d'équilibre aussi là-dessus, et ça monte. Et là, je reprends encore ce que dit Sam, mais il est incroyable ce soir. Il y a aussi ce truc de la montée en puissance de Seko Fofana, parce que quand vous jouez plus bas comme ça, bah forcément, Seko Fofana, dès qu'il va péter une ligne, vu sa puissance, c'est occasion de but, parce que donc vous pouvez jouer plus bas. Alors on a dit Gaël Kakuta, sa qualité de passe, etc. Vous avez Jonathan Clauss à l'opposé, où si vous lui laissez 10 mètres, il va y aller, il va manger la ligne. Et en plus, vous avez Seko Fofana. Alors moi, je me mets à la place, et c'était très criant à Saint-Etienne, même si c'était dans un dispositif où il y avait deux attaquants. Moi, j'étais à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Et bah, dès qu'il y avait une récupération côté Seko Fofana, c'était panique à bord de l'autre côté, parce que Lens menait au score, donc jouait très bas. Sauf que dès que Seko Fofana avait le ballon, il pouvait vraiment faire des courses de 60 mètres tout droit avec un crochet et se mettre en position. Et donc, c'est pas si bête, je pense, de jouer comme ça, parce que ça permet, à Seko Fofana de s'amuser un peu, à Gaël Kakuta d'avoir des possibilités de passe, à condition quand même, et là, c'est mon petit bémol, c'est qu'on ait un fixateur côté Lensois devant qui soit peut-être un peu plus performant que ce qu'a été, par exemple, Florian Sotoka samedi, qui a déjà fait des matchs extraordinaires, hein, mais qui doit être un peu meilleur peut-être dans les relances, dans les remises, pour permettre à tout bloc de remonter vite et bien. Et dans les 20 premières minutes, c'est ce qui a un peu manqué à Florian Sotoka. Ça a été beaucoup mieux par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle nouvelle corde à l'arc que Lensois, je trouve.
Antoine, tu as levé la main.
Ouais, alors j'espère que je vais aussi impressionner une deuxième fois de suite Greg ce soir, mais en fait moi je pense qu'il y a aussi un autre facteur. J'essaie de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi allié entre guillemets l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que l'utile dans le sens on joue contre des grosses équipes, donc on renforce un peu le milieu, mais en même temps on a joué contre de cette façon contre Metz et Strasbourg qui n'étaient pas forcément des grosses équipes, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'autre ? Est-ce que ça ne serait pas, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on a un milieu de terrain où Seko Fofana et Doucouré sont clairement insortables du 11 ? Et pour, entre guillemets, aussi contenter le temps de jeu de Cahuzac, est-ce que, justement, ce système ne permet pas d'accorder un temps de jeu significatif à Cahuzac ? Donc, au final, d'associer, entre guillemets, une évolution tactique, quelque chose, une autre façon de jouer, avec en même temps le fait de contenter un de tes piliers dans le vestiaire. Moi, je ne serais pas surpris, par exemple, là, sur la série de trois matchs qui va arriver, on revienne à un système peut-être avec le système de début de saison où on retrouve un attaquant supplémentaire associé à Sotoka, ou peut-être tout simplement une autre façon de jouer avec peut-être trois joueurs offensifs afin de redonner du temps de jeu. Je pense à Kalimendo et Ganago, mais surtout à Kalimendo qui en ce moment doit un peu sentir de la frustration, et puis relancer un Ganago qu'on a un petit peu perdu du coup.
Alors Hugues, tu avais levé la main.
Ouais, moi je trouve qu'il y a un inconvénient dans ce système, c'est que on est obligé de mettre Doucouré, Fofana, Cahuzac. On est obligé de mettre les trois, et on a du mal à voir si l'un des trois se blesse ou est suspendu. Et la blessure aurait pu arriver puisque Fofana, l'action dans la surface, il a quand même la cheville qui tourne un peu. Doucouré, là où se fait exclure Simani, il a quand même aussi la cheville qui est bien visée. Si on perd un de ces trois-là, ce système, à mon avis, il est difficilement reproductible avec les remplaçants que sont Pereira da Costa ou
Mauricio.
Donc moi c'est le problème que pose c'est un problème d'effectif strictement. On n'a pas à mon avis l'effectif pour faire ça sur 38 journées et même sur 10 journées de suite, je suis pas sûr.
Mais c'est vrai qu'en même temps aujourd'hui sortir à quelqu'un du trio Doucouré, Fofana, Cahuzac, c'est vrai que c'est compliqué aussi quoi. Il y a un choix assez cornélien. Sam.
Mais non, mais ça, il a parfaitement raison, Hugues. C'est-à-dire que ça, on disait, je me souviens, à la quatrième ou la cinquième émission, on se disait, voilà, ça va être compliqué de traverser la saison avec trois milieux défensifs. Et en plus, c'est que Fofana était blessé à l'époque. Donc, il y a eu des reconfigurations tactiques. On a fait descendre Mauricio d'un cran. Alors, pour l'instant, on touche du bois. C'est en train de bien se passer. Il reste encore sept matchs. Mais c'est vrai que globalement, c'est une prise de risque de se dire on commence la saison avec trois milieux défensifs, et d'autant plus quand on joue avec trois milieux défensifs. Je rebondis simplement sur ce que disait Antoine. Alors, évidemment, je comprends le côté frustration pour les attaquants. Ça va être intéressant de voir le dispositif contre Lorient ou contre Nîmes dans les prochaines semaines. Je pense pas que Franck Hess soit dans une dynamique de contenter Cahuzac. Je pense que Cahuzac, c'est un mec extrêmement intelligent, extrêmement empathique, extrêmement altruiste et collectif. Et donc, je pense qu'il voit son équipe avant lui et que ça le dérangerait, entre guillemets, pas trop de rester sur le banc jusqu'à la fin de saison et de rentrer un petit quart d'heure par-ci par-là. C'est mon impression.
Alors, on va passer un petit peu maintenant au coup de bâton et au carton vert. On va commencer par les notes. Je vais vous demander chacun de choisir un joueur, de lui mettre une note et d'expliquer pourquoi. Je vois que Samuel Duhamel est déjà... quasiment prêt, non, il me fait des gros yeux.
Oui, je suis prêt, non, mais... Ça,
allez, vas-y, Antoine, t'avais la parole.
Non, écoute, si tu veux, à la fin du match, je fais un tout petit peu de pub, mais sur RTL, on nous demande toujours de trouver le magnifique du match. Alors, j'avais donné Seko Fofana, mais je vais pas le donner là. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de du joueur que je vais citer là, parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé énormissime, c'est Cheikh Doucouré.
Absolument.
Voilà. C'est-à-dire que Cheikh Doucouré, je veux dire même, c'est-à-dire qu'il y avait une telle débauche d'énergie qu'à un moment donné, il m'a donné des frissons de la manière dont il se battait pour récupérer tous les ballons. Je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement propre dans tout ce qu'il fait, les relances. Enfin, c'est un mec qui est d'une discrétion, d'une gentillesse incroyable. Mais à un moment donné, je trouverais ça logique et légitime de remettre le focus sur ce garçon qui moi, encore une fois, m'épate et qui est en train de progresser là depuis quelques mois. Et je le trouve extrêmement fort, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs à son poste meilleurs en Ligue 1, quoi, très simplement. Donc, très bonne note.
Aussi jeune en plus.
Ouais, 21 ans, très bonne note. Je ne sais pas, je veux dire 7 ou 8.
Greg.
Ouais, alors nous, on a mis 6 à Gaël Kakuta dans la voie des sports et moi, je serais peut-être monté à 7. Moi, j'ai trouvé Gaël Kakuta, ça fait 2 mois, il attendait ce match un peu. Il était un peu plus dans le dur, Gaël Kakuta, depuis quelques temps. Il était moins inspiré, moins décisif. Là, franchement, et Antoine l'a dit, il déclenche son match sur cette feinte de corps où il emmène Thiago Mendes en tribune Marek. Et derrière, c'est régalade technique quand même, la talonnade qui lance Sotoka sur l'action d'Aïdara. Il y a la passe décisive sur Klose, c'est une régalade cette passe. Il y a aussi une autre passe en début de match. Bah, qui amène justement l'action de Seko Fofana dans la surface où il y a pénalty pour moi à la fin, on en reparlera peut-être. Il fait une passe dos à Seko Fofana en une touche et il lui met un caviar dans la profondeur. Et là, derrière, pour Seko Fofana, évidemment, qui a 10 mètres devant lui avec sa puissance. Non, franchement, très plaisir de voir Gaël Kakuta à ce niveau. Et donc, je parlais de Seko Fofana pour dire que depuis le début de saison, ils ont toujours été un peu en alternance tous les deux. C'est-à-dire qu'en début de saison, Gaël Kakuta était très fort et Seko Fofana était blessé. Depuis que Seko Fofana est très fort, Gaël Kakuta était un peu dans le creux. Mais là, si les deux, ils arrivent dans les deux mois qui viennent à être à ce niveau-là, avec Jean-Jonathan
avec Doucouré derrière.
Et avec Doucouré qui est aussi, comme l'a dit Sam, vraiment bien, avec Jonathan Clauss qui marche sur l'eau, et ben ça donne quand même pas mal de motifs d'espoir pour beaucoup de gens. Voilà.
Hugues, à ton tour.
Oh bah moi, je vais choisir Jonathan Clauss et je suis surpris que les médias n'aient pas parlé du duel Léo Dubois-Jonathan Clauss, parce que là, on a quand même vu un fossé entre les deux, entre un Lensois qui prenait les espaces, qui était hyper actif sur son côté, qui marque un but, qui a joué juste. Il réinvente pas le poste, hein, Jonathan Clauss, il fait que des choses qu'on attend d'un latéral droit moderne, mais il fait ça tellement bien et il fait ça avec un dynamisme. Ce type, il a trois poumons, je ne sais pas comment il s'entretient physiquement, mais il doit être hyper sérieux, hyper professionnel, parce que il est à fond pendant, bon, alors là, il joue 70 minutes, mais il a été à fond. Et de l'autre côté, on a un Lyonnais, Léo Dubois, qui est en équipe de France. J'espère que tu regardes Didier Deschamps des matchs comme ça, parce que franchement, c'était pas terrible. C'était timoré, c'était des passes prudentes, pas beaucoup de montées, pas beaucoup de participation dans l'entrejeu. Moi, j'ai pas du tout aimé le match de Léo Dubois, et je trouve que sur la dynamique, je ne comprends pas pourquoi c'est Léo Dubois qui commence le match au Kazakhstan.
Y a match. Antoine, à ton tour.
Bah moi, ça va être le. Enfin, je pense. Pour moi, c'est le vrai homme du match, c'est Loïc Badé. Je l'ai trouvé absolument parfait et en plus de ça, très sobre. Il a fait vraiment. Pour moi, il a apporté une réponse assez claire et assez nette à tout ce qu'on pouvait lui reprocher ces deux derniers mois. Il a quand même muselé un des meilleurs attaquants de Ligue 1 pendant 90 minutes sans que celui-ci arrive à... Alors, il a réussi tant en temps à se libérer du marquage, mais on a vraiment eu l'impression que Badé a complètement croqué Memphis Depay, ce qui est une sacrée performance. Et en plus de ça, on l'a vraiment senti hyper sobre et hyper serein, sans faire trop. Il a à un moment perdu une balle, je crois, au milieu de la deuxième mi-temps, qui a tout de suite lancé une contre-attaque lyonnaise. Donc là j'ai eu tout de suite peur de vivre des scènes des dernières semaines, mais globalement je l'ai trouvé quand même extrêmement souverain dans son poste.
Ouais, c'est vrai que
et si je devais lui mettre une note, ouais, je lui mettrais un bon 7. Ouais.
Ouais, le Ibadé était sur la route de Memphis, hein, toute la soirée.
Alors, juste, je vais vous donner aussi mon petit avis de mon côté. Je suis forcément d'accord avec tous les joueurs que vous avez donnés, hein, qui ont, à l'image de la prestation lensoise, qui ont fait une grosse performance. Je vais en sortir un aussi qui est peut-être un petit peu plus discret en ce moment, mais parce que on a l'habitude de mettre les attaquants en avant quand ils marquent un but. Greg, Sam, vous ne me contredirez pas, quand un attaquant marque un but, en général, il a un point en plus. Et ben moi, je vais le sortir pour Jonathan Grady, qui arrête un ballon sur la ligne à un moment qui est plutôt chaud. Quelque part, il n'a pas marqué son but, mais il a évité d'en prendre un. Et je pense qu'il faut le souligner aussi. Donc, hop, ouais, je mets Jonathan Grady dans le lot.
Et tu fais bien, parce que je trouve qu'effectivement, depuis quelques semaines, c'est quand même peut-être le plus régulier et le plus discret, mais qui est vraiment devenu un taulier. C'est aussi le plus expérimenté des trois derrière, hein. C'est peut-être pas un hasard, mais t'as raison, et on a du mal à trouver un joueur qui a fait un mauvais match. Alors Fortes a eu quelques difficultés, mais on parle même pas de Jean-Louis Leca, qui a été, on en reparlera peut-être après, mais qui a été ultra décisif. Ces deux sorties sont extraordinaires, donc ça dit quand même tout. Quand on fait le tour de cette équipe samedi, c'est compliqué de dire qu'on comprend mieux pourquoi collectivement ça a été aussi un bon match.
Effectivement. Alors, on a donné les notes, elles ont été bonnes. Maintenant, on va distribuer les cartons rouges. On va prendre dans le sens inverse. Tiens, on va commencer par Antoine.
Très bien. Moi, mon carton rouge, il est. C'est compliqué, parce que j'aime pas parler d'arbitrage ou quoi. Là, c'est pas tant l'arbitrage, mais c'est encore une fois, on en a déjà parlé dans cette émission plein de fois. C'est l'utilisation que je trouve toujours un peu. Binaire de la VAR, c'est-à-dire que des fois on l'utilise quand il faut et des fois on l'utilise pas quand il faut, tout simplement. Et là, en gros, on a deux cas qui sont très proches l'un de l'autre dans le match en première mi-temps. Donc le premier, c'est le but refusé à Chidoukouré, qui est dans l'esprit de la règle et ben en fait non valable. Donc là-dessus, l'utilisation de la VAR est adéquate. Par contre, il y a pour moi cette action de Seko Fofana donc, qui rentre dans la surface de réparation et qui va exploser Denayer tibia contre tibia. Mais quand on revoit en fait l'action au ralenti, on se rend compte qu'en fait il y a une grosse poussette de Paqueta juste avant. Et pour moi en fait cette action là aurait pu clairement mériter un petit coup de VAR. Donc en fait c'est cette utilisation de la VAR que je ne comprends pas. Moi personnellement je suis contre la VAR. Je suis un peu un mec à l'ancienne à ce niveau là aussi. Et je trouve qu'en fait la VAR ne fait que déplacer à chaque fois les problèmes et les erreurs d'arbitrage et de débat. Donc voilà, donc ça sera mon carton rouge parce qu'en fait j'en ai pas trouvé d'autres sur le match.
Ouais, et puis alors juste pour être dans ton sens, moi ce qui m'embête c'est de savoir ce qu'est une erreur manifeste de l'arbitre. On a beau aller chercher la vidéo ou pas aller la chercher, comment on juge si l'erreur est manifeste ou pas? Ça, moi c'est déjà un premier point qui me paraît compliqué, mais on est toujours dans l'interprétation personnelle qu'on a toujours vu dans le foot. C'est ça peut-être qui rend les choses compliquées. Moi ce qui m'embête c'est sur ce but de Doucouré où j'en veux pas à l'arbitre parce que c'est la règle, il refuse, voilà, le ballon est touché de la main, on refuse. Par contre dans l'esprit du jeu, cette règle dès le départ, on voit bien que Sotoka se retourne, qu'il va absolument pas toucher le ballon, ça vient taper, ça rentre, et là on est pour moi totalement contre l'esprit du football. Et d'ailleurs cette règle l'année prochaine elle va changer puisqu'elle sera plus valable, et c'est là où à un moment il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Enfin voilà, je pense qu'on pourra en parler des heures, mais c'est là où le ressenti me paraît vraiment bizarre et où l'interprétation à chaque fois humaine fait que ça prête débat pendant des heures et des heures.
Non mais et ça revient encore une fois, c'est pas une erreur d'arbitrage, cette règle elle est pourrie, mais c'est la même pour moi que quand Charles Boly l'année dernière au Paris FC il se voit refuser un coup franc en pleine lunette parce qu'il y a un lensois dans le mur qui fait même pas de geste parce que la règle c'est maintenant qu'il faut plus qu'il y ait de joueurs de l'équipe qui frappe dans le mur. À un moment donné je veux bien, mais on dit toujours le foot, ça manque de spectacle, on en reparlera après parce que ce sera mon carton rouge aussi, on veut toujours plus de spectacle. Mais rien que sur ces deux actions-là, vous avez une frappe de 25 mètres de Cheikh Doucouré qui est annulée parce que Sotoka ne peut pas se couper le bras. Et en plus, on voit bien qu'il colle bien son bras sur son corps. Il n'y a même pas… alors, il dévie le ballon, mais il fait tout pour l'éviter. Et celle de Charles Boly, c'est pareil, c'est un coup franc en pleine lucarne, c'est magnifique, c'est un geste technique superbe. Mais oui, il y avait un lensois à moins d'un mètre du mur, donc on est obligé de le refuser. Non, mais encore une fois, le problème, c'est qu'on focalise sur l'arbitre, du coup, forcément. On dit c'est n'importe quoi. Or, lui, il applique la règle. Et la règle est dégueulasse. Par contre, quand il ne met pas tout son jeune à Paqueta pendant tout ce match, alors que Paqueta, dès la première minute, il tamponne le cas avec 3 secondes de retard, qui fait des poussettes tout le match, notamment sur Fofana, qui aurait dû amener un pénalty, à mon sens.
Puis qui prend la balle à la main aussi.
Il prend la balle à la main alors qu'il y a un 5 contre 3 à jouer en contre-attaque, il la prend volontairement à la main et il passe tout son match un peu à pourrir avec beaucoup d'expérience, ça fait partie du jeu, et qui ne prend pas de carton. Là, par contre, l'arbitre, surtout sur sa gestion du match, ce n'est pas les règles qui ont fait qu'il a été mauvais sur ce typiquement sur ce cas-là, c'est juste qu'il a manqué de discernement aussi parfois. Voilà.
Hugues, à toi, ton carton rouge.
Mon carton rouge aux joueurs offensifs lyonnais qui ont fait un mauvais match. Les trois attaquants qui ont des occasions qui s'en créent peu déjà et qui le peu qu'ils ont, par exemple Kadewere quand il se retrouve seul face à l'Eka, il tire à côté, qui aussi sont pas loin de nous casser l'Eka en deux à deux reprises. J'ai trouvé que Slimani qui rentre à la fin et qui réussit à se faire expulser sur le peu de temps qu'il joue, j'ai trouvé que ça faisait une accumulation de mauvais choix, mauvais gestes, mauvais esprits de la part des offensifs lyonnais qui font que cette équipe aurait presque dû ne pas être récompensée de marquer. Mais bon, elle marque quand même par, on l'a dit, Paqueta qui fait un match assez répréhensible par ailleurs. Mais bon, globalement, on n'a pas du tout aimé l'aspect offensif lyonnais.
Sam.
Rudy Garcia, j'allais dire Rudy Garcia évidemment, mais je vais juste m'arrêter à Rudy Garcia. Non, en fait, si vous voulez, j'avais été un petit peu heurté parce qu'il avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, après la victoire le match de Lyon à Brest, j'avais trouvé très condescendant et dédaigneux. Il avait critiqué le stade en disant que c'était un stade qui n'était pas digne de la Ligue 1. Enfin, je trouvais qu'il avait tendance à jouer un peu trop les grands seigneurs. Et là, après le match, en fait, quand on l'écoute, il n'y avait pas d'adversaire. C'est-à-dire que si Lyon a concédé le nul, c'est parce que les attaquants lyonnais ont manqué d'efficacité. Alors, Hugues l'a souligné à juste titre, et que la défense lyonnaise a manqué d'efficacité également dans l'autre surface, mais que l'adversaire, en fait, n'a pas existé. Bon, il m'a semblé que les Lensois, quand même, avaient fait plutôt un bon match, et j'ai trouvé qu'il avait manqué peut-être un petit peu de clairvoyance ou d'élégance de pas souligner la performance de l'adversaire, et je pense qu'il a oublié cet aspect.
Greg, si tu es un peu redescendu en température.
Ouais, non, pas vraiment. D'ailleurs, ce que dit Sam est très vrai sur Rudy Garcia. Hein. Et je dirais qu'à contrario, Franck Hez, il a notamment pas évoqué cette idée, ce but refusé de Cheikh Doucouré en disant avec beaucoup de classe que pour le coup, c'est la règle et il n'a rien à dire là-dessus. Donc voilà, il y avait effectivement peut-être deux temps différents au niveau des entraîneurs et dans leur comportement aussi, tous les deux sur le banc. Ça, c'était évidemment beaucoup plus de pondération chez Franck Hez que chez Rudy Garcia. Par contre, pour mon carton rouge, moi, c'est voilà. Alors, je vais prendre l'exemple. Il y a eu la note sur les téléspectateurs de Canal+ sur ce match en 76. Chacun donne son avis. Les gens ont le droit de trouver que c'était un match moyen. J'ai pas de problème avec ça. Mais plus généralement, on n'arrive plus en France à se dire qu'il y a des bons matchs en Ligue 1. C'est presque devenu du bashing absolu tout le temps. Et moi, j'ai vu un super match en fait samedi. Et comme l'a dit Sam, je me suis régalé. Le même match en Angleterre, on se serait dit ah ben regardez ces équipes, on prennent les étoiles. Jusqu'au bout, elles ont envie de gagner, c'est incroyable. En Espagne, on dirait techniquement, des équipes ont plus de qualité, donc c'est normal, il y a plus d'occasions. Moi, j'ai dénombré au moins 5 ou 6 occasions des deux côtés, des arrêts de gardien. L'occasion qu'a Jonathan Clauss quand il met cette demi-volée, alors que Cahuzac la volaille lui-même et derrière Lopez.
Ouais, à fond.
Et derrière Lopez va la chercher sous la barre. Je suis désolé, mais c'est du très 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 haut niveau du début à la fin jusqu'à l'arrêt de Lopez. Il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu pas mal de faits de jeu, il y a eu de l'émotion. Jusqu'au bout, les deux équipes ont essayé de jouer et de gagner le match. Et on en arrive, alors la note c'est presque anecdotique de celle de Canal+, mais on en arrive toujours à dire notre Ligue 1 est pourrie, notre Ligue 1 elle est nulle. Oh là là, et puis les matchs de l'équipe de France c'est nul aussi. Et arrêtez, c'est du très très haut niveau, on parle du très très haut niveau et on a des très très bons matchs. Moi je suis lance. Évidemment, cette année, et on a peut-être plus de chance que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de bons matchs, mais je trouve vraiment que ce bashing général, toujours sur le foot français, m'exaspère toujours, voilà, de plus en plus.
Et tu parlais des actions, des belles actions, moi j'en ai noté une, et en fait, c'était un point que j'avais déjà noté sur la dernière émission à laquelle j'avais participé, c'est le jeu, les lancements de jeu depuis les touches, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans les lancements de jeu par les touches du RC Lens. Hier, à la 43e minute, là, tu parlais de la volée de Clauss. Derrière, il y a la volée de Haïdara, la air volée, malheureusement pour Sadio. Mais le lancement de jeu est incroyable. C'est une touche en fait, où les joueurs lensois en fait, sont complètement immobiles. Il y a deux joueurs qui sont en bord de touche et deux joueurs qui sont quasiment dans le centre du terrain. Libère un espace, je crois, pour Sotoka, qui fait une déviation pour
Keita,
qui, avec une vista incroyable, retrouve Sotoka, qui met un ballon parfait pour Haïdara. Et des actions comme ça qui sont des actions semi-arrêtées en fait, mais c'est un régal à voir, c'est absolument incroyable.
Alors messieurs, on va en terminer avec ce match Lens-Lyon, un but partout. Je pense qu'on a fait le tour en long, en large, en travers, on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Je vous propose une petite parenthèse, parler un petit peu de Mercato. On sait très bien que quand on passe janvier, février et mars, ça commence à beaucoup s'activer dans les clubs, malheureusement ou heureusement. On voit qu'on a une équipe de Lens qui fonctionne très très bien. Forcément, les joueurs sont sollicités. Il va falloir aussi peut-être améliorer cette équipe si jamais elle a la chance de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc voilà, on va, comme on est au mois d'avril, on va ouvrir un petit peu ce sujet. On aura le temps d'y revenir plus tard, mais déjà lancer quelques banderies, commencer à mettre le schéma de jeu. Comment vous voyez-vous le futur de cette équipe avec des joueurs, on l'imagine, qui vont être hyper sollicités. On a parlé des performances, notamment de Fofana, de Clauss, de Badé. Medina en a parlé aussi sur la première partie de saison, voilà, etc., etc. Comment vous voyez ça, Greg, si je peux te donner la parole en premier?
Ouais, comment cette équipe, comment ça va être gérée pour l'intersaison, c'est un peu l'idée.
Ah, c'est un peu ça, ouais.
Déjà, je pense qu'il va falloir attendre, évidemment, le verdict, parce qu'il y a aussi un aspect tout à fait simplement économique, au-delà de la Coupe d'Europe, c'est plus tu es haut, plus tu prends de l'argent. Et vu le contexte actuel, évidemment que chaque chaque sou est compté. Après, oui, Lens va être attaqué sur des joueurs. On pense à Badé, on pense à Klos, on pense à Doucouré, évidemment. On pense pourquoi pas à Seko Fofana, parce que c'est quand même. Et pourquoi pas à Gaël Kakuta, c'est une question aussi. Même si
Medina.
Medina, enfin, il y a du monde, évidemment, qui peut partir. Il y a des joueurs comme Michelin ou Mauricio, peut-être, qui ont envie de partir aussi pour prendre du temps de jeu parce que c'est compliqué. Donc, tout peut se passer, mais il faut se dire, à contrario aussi, que, un, évidemment, que Lens est dans une position de force parce que. Il y a moyen évidemment de faire monter les enchères et que Lens bradera pas des joueurs qu'il a un peu sorti de l'invisibilité pour certains. Je pense à Jonathan Klos par exemple. C'était une super idée, mais Lens rentrera forcément dans ses sous vu qu'ils l'ont eu gratuite. Et surtout, dans l'autre sens, c'est devenu un club sexy en fait, Lens, en un an. Beaucoup de gens ont envie de travailler avec Franck Hesse par exemple. Et ça, pour commencer un peu à travailler moi de mon côté, je sens qu'il y a un respect total de ce qui est fait à Lens. Ce qui veut dire que, évidemment, que la fuite, si vous perdez 5 joueurs majeurs du 11, il faudra tout reconstruire. Mais quand on voit ce qu'a fait Franck Hez en un an avec une équipe, il l'a complètement révolutionné. Et ben, y a aussi des joueurs qui disent, y a beaucoup de joueurs, moi je sais des joueurs qui disent qu'est-ce que ça doit être bien de jouer dans cette équipe. Et ils le disent aux joueurs lensois après les matchs. Et je pense vraiment que cette équipe, elle est devenue sexy et qu'elle peut taper déjà dans l'idée d'aller chercher des joueurs qui, il y a un an, auraient dit bah non, Lens, c'est un promu. Ça m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà. Et puis il y a la Coupe d'Europe peut-être. Et là, vous imaginez bien que encore plus, vous prenez de la crédibilité aux yeux des gens qui ont peut-être envie de venir.
Hugues.
Ouais, ben, c'est évident que Lens devient attractif. Un joueur qui a envie en plus peut-être de retrouver le public, on espère dans un monde vacciné, aura encore plus envie de venir jouer à Bollard de Lelys. Il y a aussi un historique de ce staff lensois qui a su, les saisons précédentes, anticiper le mercato. On a vu des signatures qui étaient déjà presque acquises en avril. On a vu des joueurs qui partaient et qui étaient remplacés par des joueurs au moins aussi bons. Quand Santon se part, il y a des arrières droits tout aussi bons qui arrivent derrière. Après, il y a la formation, évidemment, qui fonctionne très bien d'année en année. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude. Franchement, je vois un staff qui travaille très bien, qui, à mon avis, a construit de très bons réseaux, puisqu'on ne fait pas venir Seko Fofana comme ça en débarquant de nulle part. Donc, franchement, en plus, la saison dernière, l'intersaison dernière, l'été 2020, j'étais surpris de voir des journalistes qui pensaient que Lens ferait 15e, 17e, 18e, 19e, parce qu'ils n'avaient pas compris que Lens était l'un des rares clubs qui pouvait dépenser plus qu'il ne vendait. On a un actionnaire qui a quand même une surface financière intéressante et qui était resté patient et qui avait envie d'investir pour monter en Ligue 1 et ne pas faire cette 15e place à laquelle l'équipe semblait promise, selon certains journalistes qui n'y connaissent rien. Donc pour moi, Lens va avoir de la...
C'était mon cas.
C'était bien aussi. Moi, j'avais tapé sur la ligne. Moi, je me suis clairement trompé sur le niveau de cette équipe, parce qu'au bout d'un mois et demi de match amicaux, j'étais sûr qu'elle allait batailler jusqu'au bout pour aller chercher le maintien. Donc non, mais tu as tout à fait raison, et tu as été clairvoyant, et évidemment qu'on se trompe, ça arrive.
Non, moi je pensais aux alentours de la 10e place. Bon, voilà, je pense que Lens, aujourd'hui, en ayant envie d'accrocher cette 5e place, va savoir encore attirer beaucoup de bons joueurs.
Vas-y, Antoine.
Non, mais moi sur le mercato, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas d'informations. Donc à partir de là, je vais pas avoir beaucoup de valeur ajoutée. Je préfère que Sam ou Greg s'expriment. Mais moi, j'ai une confiance depuis le début dans ce staff. Je me dis, je pars du principe que si on arrive à faire venir Seko Fofana en étant promu, c'est qu'on a des gens compétents pour bien négocier des transferts. J'ai l'impression aussi que si tu finis 5e de Ligue 1 ou 6e avec un des jeux les plus attractifs du championnat, tu vas aussi avoir une façon un peu plus facile de vendre ton projet à des joueurs. Financièrement, on aura peut-être une surface un peu plus intéressante que ce qui avait été budgété en début de saison. Et puis, à contrario, il y a des clubs de Ligue 1 qui, eux, n'avaient peut-être pas budgété d'être aussi bas, qui ont des actionnaires qui font un peu défaut. Je pense à Bordeaux, à Saint-Etienne, ou même à des clubs plus petits qui vont se sauver, mais qui vont avoir des difficultés financières et qui vont peut-être aussi devoir vendre. Et chez ces clubs-là, on va peut-être aussi pouvoir aller piocher des bons profils de joueurs qui rentrent un peu dans la philosophie de jeu de Franck Haise et qui vont permettre de renforcer l'effectif pour en vue de la saison prochaine.
Allez, pour terminer ce chapitre, Sam.
Alors juste 3-4 éléments. Je me souviens qu'on était allé voir un match amical en début de saison avec Greg. De mémoire, c'était Lens-Gand. Tu m'arrêtes, Greg, c'est ça. Je me souviens que j'avais dit entre 5e et 20e, je suis incapable de dire à quelle place Lens va terminer, mais c'était plutôt 20e que 5e par ailleurs.
Voilà. C'est vrai, j'étais beaucoup plus pessimiste que toi, c'est vrai.
Mais juste, alors c'est pareil, moi j'ai pas d'informations précises à donner. Simplement, effectivement, Greg, il a raison de souligner qu'il y a des joueurs qui ont une forte valeur marchande désormais à Lens, et notamment des jeunes joueurs, et que Lens va être attaqué. Mon sentiment par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y aura pas 5 ou 6 départs. Et quand je parle des 5 ou 6 départs, c'est les joueurs que Greg a cités, c'est-à-dire Loïc Badé, Cheikh Doucouré, Fofana, Kakuta, etc. Tous les joueurs qui ont une forte valeur marchande, Medina, je pense qu'il y en aura quand même peut-être 2 ou 3. Parce que c'est un mercato et que je pense que ça fera plaisir de récupérer de l'argent pour Joseph Ogourlian et toute l'équipe dirigeante du RC Lens. Donc peut-être 2 ou 3 départs, mais je pense qu'effectivement enfin je disais tout à l'heure en fait un truc, enfin ça paraît tellement dingue, mais Seko Fofana, il a refusé le Milan AC pour venir à Lens. Donc, à partir de là, le côté Lens est redevenu attractif. Alors, je me souviens qu'il avait dit, voilà, moi, j'ai envie de découvrir le public de Lens, etc. Bon, il y a toute une histoire aussi d'amitié avec Loïc Badé et d'autres, Cahuzac, etc. Mais voilà, Lens, c'est un club qui, à nouveau, et ça fait plaisir de le dire, mais qui donne envie à beaucoup de joueurs. Et on a, un staff technique qui est d'un très, très bon niveau et qui est capable de recruter des... Là, les joueurs dont on parle, on n'était pas beaucoup à les connaître il y a encore 9 mois. Hein. Loïc Badé, etc. Donc, ils sont… Voilà, là, c'est un club structuré. Je pense qu'on est encore tous plus ou moins… on est marqués au fer rouge de ce qui s'est passé après le titre en 98 ou 99 et qu'on voyait chaque année les meilleurs joueurs lensois partir. Mais j'ai l'impression que cette époque est révolue.
Eh bien, merci pour ce petit mot de la fin sur le mercato. Sam, on va tout de suite enchaîner. On va passer à notre quiz qui va être une transition vers le prochain match Lens-Lorient qui nous attend dimanche à 15h. Puisque dans ce quiz, eh bien, je vais vous demander tour à tour de me citer un joueur ou coach qui a évolué dans les deux clubs, c'est-à-dire à Lens et à Lorient. Alors, comme il remet son titre en jeu quasiment à chaque émission, on va le faire commencer. Donc, Grégory Lallemand, à vous de vous lancer, de vous jeter à l'eau et de sortir un joueur qui a joué dans les deux clubs ou technicien.
Franck Haise.
Ah, elle était facile celle-là. On enchaîne. Hugues, à ton tour.
Stéphane Pedron.
Ça marche, il est dans la liste. Antoine.
Là, j'avais Pedron, j'avais Franck Haise.
Comme par hasard. Ah, ça cale, attention, il reste 5 secondes.
Ça cale direct.
3 secondes. Aïe, le buzzer.
Ah là là, c'est la mort.
Non, oui. Ah là là, Antoine, désolé.
Tu m'as vu, Simon.
Samuel.
Monet Paquet.
Eh oui, KMP est dans la liste également. Greg.
C'est déjà moi?
Eh ben, déjà, oui, je ne joue pas.
Tu sais, je suis mauvais, Greg. Hein.
J'étais pas prêt, là. Oh, mon Dieu.
À 5 secondes, Greg. Faut aller vite.
On est en retard. Sylvain,
si vous me laissez pas réfléchir, ça va être compliqué. Quand t'as le coche, non?
Il est bien, il compte. On enchaîne, ouais. Hugues.
Robert Balm.
Robert Almar, effectivement, à Sam.
Monterubio,
oui. Greg.
Non, mais ça va trop vite, là. C'est plus possible. Bah, je crois que je vais perdre, en fait. Je crois que
5 secondes, Greg.
Je crois que je vais perdre, en fait.
3 secondes.
Mais ouais, je crois que... Non, mais c'est pas possible. Laisse-moi.
Ah là là. Désolé, Greg. Ah, c'est perdre. Et Greg a perdu son titre. Hugues.
C'est normal.
Non, j'en ai pas d'autres. J'allais dire Charles-Édouard Corridon, mais c'est à Guingamp, non. Donc, non.
Eh ouais. J'en ai pas. Ah là 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 là. Et il y a encore ce qu'il faut, Sam. Hein. Je te rassure, t'as la balle de match. Pénalty, 94e minute.
Je crois que je vais enterrer les espoirs de Greg, parce que je crois que j'en ai deux autres. Mesloub et Keïta.
Eh ben oui. Keïta, mais oui, vous l'avez oublié. Et alors là, victoire de Samuel Duhamel qui non seulement a réussi à être d'accord avec Grégory Lallemand et qui le bat en plus au quiz. Il a neigé aujourd'hui, je vous le rappelle.
Deuxième victoire consécutive, Sylvain.
Ouh là 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 là.
En fait, alors, moi, je suis comme le Racing, c'est-à-dire que je monte en puissance. Alors que Greg, c'est plus les Girondins de Bordeaux, tu vois.
Le Seco Fofana de Culture sans erreur.
Ouais, moi je suis un peu Racing Club de Lens, saison 2017-2018.
Allez, on enchaîne. Dimanche, ce sera la réception de Lorient par le Racing Club de Lens au Stade Bollard. Deuxième match consécutif à domicile pour le Racing. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Est-ce que Lens va gagner? Est-ce qu'on va reconduire le même schéma tactique? Va-t-on aller surtout chercher les trois points, Hugues?
Pardon, quel est l'adversaire? J'ai oublié.
Lorient, les Merlus.
Lorient, on avait beaucoup aimé le match aller au Moustoir, donc on espère que ça va être aussi un feu d'artifice comme ça avait été là-bas à Lorient. Moi, je pense que les Lensois, ils sont vraiment attachés à cette cinquième place. Ils n'ont pas du tout envie de la lâcher. Ils n'ont pas envie de laisser cette place à Marseille. Donc là, ça sera peut-être effectivement l'occasion de revoir deux attaquants. Moi, j'aimerais bien que Kalimuendo, qui doit franchement ronger son frein, soit aligné d'entrée. J'ai bien aimé le match de Sotoka, hein, moi, contre Lyon. Je pense qu'une attaque Sotoka-Kalimuendo, c'est très complémentaire et que en retrouvant le milieu qu'on avait connu pendant une bonne partie de la saison, on pourrait avoir plusieurs buts marqués par les Lensois. Et sachant qu'on a cette solidité défensive actuelle, je vois pas de souci pour avoir une victoire de Lens.
D'accord. Alors, on va juste, avant de passer la parole à Antoine, rappeler que pour le moment, Lorient est 17e et juste 3 points au-dessus du premier barragiste qui est Nîmes. Donc voilà, vachement lancé dans la course au maintien. Et que ben, Lorient a battu Brest ce week-end 1-0. Antoine.
Ouais, moi en fait, c'est ce que j'attends. Bah, forcément une victoire. On ne peut qu'attendre une victoire hein, dimanche prochain. Maintenant, effectivement, je vais avoir plus de curiosité sur comment est-ce qu'on va évoluer. Et puis, est-ce qu'on va garder ce système ou est-ce qu'on va être, entre guillemets, est-ce qu'on va replacer un pion qu'on a reculé de la ligne d'attaque au milieu de terrain, est-ce qu'on va faire le chemin inverse? Et surtout, c'est l'état d'esprit, puisque moi, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est ce qui m'impressionne beaucoup là, dans ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que là, on sort d'une trêve internationale sans match amical contre Amiens. Et on sent qu'on est capable encore de répéter des performances à haute intensité, avec beaucoup de concentration. Et moi, à chaque fois, en fait, toutes les semaines, je me dis, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Là, j'avais tendance à dire que c'est utile de se motiver contre l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un gros en face. Là, on va jouer une équipe qui est impromue, mais qui est impromue avec un coach qui propose du jeu. Donc, on peut voir un très beau match, peut-être plus ouvert que quand on a reçu des Metz ou des Strasbourg. Donc voilà, donc j'attends forcément les trois points, mais surtout j'espère qu'on va y mettre le même sérieux, la même concentration. Je suis pas un ayatollah du clean sheet, parce que pour moi il faut juste gagner, mais si on pouvait faire un match sans prendre de but, ça serait un bon point pour la séquence qui suit avec le déplacement à Nîmes et la réception je ne sais plus c'est quoi la deuxième réception après Nîmes.
Déplacement à Brest et réception de Nîmes.
Ah oui, Brest et Nîmes, voilà. Donc ouais, un petit clean sheet, ça serait, je pense, ça serait une bonne performance pour l'équipe.
On revient se rassurer. Alors, sachant que pour l'instant, Lorient en championnat n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur pour 8 matchs nuls. Par contre, Lorient est pour le moment sur 5 matchs sans défaite avec 3 nuls et 2 victoires. Donc voilà, ils sont dans la course au point, ils restent présents et il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Sam.
Ouais, alors moi je pense exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, Lorient est un faux 17e. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est beaucoup mieux depuis un mois et demi, deux mois, qui enchaîne les bonnes performances et les bons résultats. Donc, match piège. C'est-à-dire qu'en fait, Lens, c'est une équipe qui peut faire de gros matchs, mais qui n'a pas de... De toute façon, on le voit, parce qu'en fait, il y a très rarement des victoires avec deux buts d'écart. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a pas de latitude, énormément de latitude par rapport aux autres équipes. C'est-à-dire qu'il faut absolument, entre guillemets, que Lens maximise son potentiel si Lens veut gagner des matchs. Donc, voilà... Évidemment, on a tendance à attendre une victoire après ce qu'on a vu là, mais on sait que c'est jamais aussi simple que ça. Alors, le schéma tactique, on en a parlé, Kali Mwendo en a parlé. Je ne sais pas à quel niveau il est, Ganago. Moi je suis intéressé de savoir en fait si Ganago est capable de revenir à ne serait-ce qu'à 80% de son niveau de début de saison. Ça serait déjà énorme. Alors pas forcément pour être titulaire la semaine prochaine, mais il restera 6 matchs derrière. S'il peut se rapprocher de son niveau de début de saison, on a beaucoup parlé des points forts de Barcelone. Greg l'a fait très bien en milieu d'émission. Si on peut rajouter un Ganago à 80% de ce qu'il a montré en début de saison, je pense que Lens sera pas mal.
Greg?
Ouais, alors je voulais parler de Ganago. Bon, ça m'a un peu coupé la chie dessus, et c'est très bien parce que notamment à l'aller, il avait été vraiment très bon. Enfin, il avait mis notamment un but magnifique. Quoi. C'était au moment où il était en feu. Donc c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on peut attendre dans les deux mois qui arrivent. Maintenant, sur le match à proprement parler de dimanche, attention déjà, c'est vrai, parce que. Un peu comme Strasbourg, vous savez, quand Strasbourg était venu à Lens en janvier, c'était une équipe qui n'était pas très bien. On la voyait 15e, 16e du championnat. Bon, ça semblait tout cuit. Puis finalement, Lens avait fait un non-match. Jamais, elle n'avait jamais vraiment trouvé la solution et s'était fait planter. Elle avait perdu 1-0 presque logiquement sur l'ensemble de la partie. Donc attention, Lorient, ça joue pas mal en ce moment. En plus, c'est vrai, c'est pas du tout l'équipe qui était un peu dans le creux en début de saison qui se trouvait autour de Gerbich. Ça, c'est complètement différent aujourd'hui. Mais surtout, moi, je pense que si Lens devait être européen, il faut qu'il bascule en mois de mai avec 4 ou 5 points d'avance sur ses poursuivants pour mettre une pression sur les autres et aborder ça avec l'idée d'avoir un joker. C'est mon avis. Et je pense vraiment que pour le coup, les trois matchs qui arrivent, il faut tout lâcher parce que c'est vraiment là que ça peut basculer vers quelque chose de bien. Ce week-end, on l'a dit, il y a Montpellier-Marseille. Tous les matchs ne seront pas faciles non plus pour les poursuivants. C'est vrai. Mais là, il y a trois matchs à Lens qui jouent libérés. Il y a Lorient. Après, il y a le déplacement à Brest. Brest qui est pas non plus, qui pue le Brest scintillant et flamboyant qu'on a pu voir. Il y a la réception de Nîmes. Alors oui, Nîmes a gagné à Lille il y a deux semaines. Mais Nîmes, ça doit rester dans les cordes du Racing Club de Lens. Donc voilà, je pense vraiment que les trois semaines qui viennent vont nous dire vraiment sur ce que sera en tout cas l'objectif du mois de mai. Voilà.
Hugues, ce calendrier qui arrive à trois matchs contre trois équipes qui ont le couteau entre les dents. Comment tu vois ça?
Ouais, on a envie de dire c'est la possibilité de prendre 9 points. Bon, c'est jamais arrivé, je crois, cette saison à Lens d'aligner 3 victoires. Je pense pas.
Ça arrive en tout début de saison, victoire contre Paris à Lorient et victoire contre Bordeaux dans la foulée. Et c'est la seule fois où c'est arrivé.
Ouais. Ouais, bon, on ne voit pas souvent ça, en tout cas, quand je supporte Lens, soit 3 victoires de suite en championnat. Bon, pour moi, l'intéressant, ce serait de poursuivre le plus longtemps possible. Et à mon avis, c'est ce que les joueurs ont en tête, c'est de ne pas perdre. Ils veulent, à mon avis, leur objectif dans la tête, c'est de finir la saison sans perdre. Bon, là, il y a des équipes qui sont effectivement un peu moins bien. Effectivement, contre Strasbourg, on avait eu cette déception dans un match très bizarre où on avait joué dans le brouillard et il faisait froid. Et peut-être que Lens était physiquement un peu moins bien. Et on voit que Lens est beaucoup mieux physiquement maintenant, que la préparation peut-être était faite pour accélérer à ce moment-là de la saison, en avril. Bon, moi, j'espère que c'est le cas. Pour l'instant, les signes, ils sont quand même très intéressants. L'aspect physique contre Lyon, il a été extrêmement satisfaisant. On a vu des joueurs qui continuaient à carburer jusqu'au bout. Donc, j'ai beaucoup confiance dans cette équipe. Je ne crois pas en 9 points, mais je pense que 7, c'est possible.
Alors, justement, 7, c'est possible. On va déjà commencer par ce match contre Lorient. Je vais vous demander de faire tourner un petit peu vos neurones, de calculer les schémas tactiques, les buts. Et puis, vous allez me donner chacun votre tour, votre prono pour ce Lens-Lorient qui nous attend. Ce sera dimanche à 15h au Stade Bollard. On va commencer par Antoine.
Je dirais 2-1.
2-1 pour le Racing Club de Lens, côté Antoine. À Samuel.
Je dirais toute petite victoire 1-0.
Greg ?
Alors, il faut savoir que Lorient, je crois, n'avait plus, jamais gagné. Lens n'avait pas battu Lorient à domicile depuis très longtemps. C'est arrivé l'année dernière sur un pénalty de Mauricio, 1-0. Mais je crois que c'était la première fois de l'histoire. Lorient réussit plutôt bien à Bollard. Je veux dire, un but partout. Mais but lensois signé Ignatius Ganago.
Hugues ?
2-0.
2-0, allez, je vais me lancer, je vais dire un but à zéro pour le Racing Club de Lens. Eh bien, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est temps de siffler à la fin de ce numéro 30 de Culture Sang et Or. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, regardés, d'avoir interagi sur nos plateformes. Vous pouvez bien entendu nous retrouver toute la semaine sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Dès demain, dès ce mardi à midi, eh bien, le podcast sera disponible sur nos différents réseaux. Vous pouvez réécouter l'émission. Et puis n'oubliez pas, nous avons un nouveau partenaire, la radio RBM, qui rediffuse l'émission tous les mercredis à partir de 18h et puis également 2h avant chaque match. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de RBM et puis notre site internet aussi, Culture Sang et Or, sur lequel vous pouvez retrouver plusieurs articles sur eh bien, la culture du Racing Club de Lens dans notre beau massin minier. Voilà pour ce soir, pour cette édition numéro 30 de Culture Sang et Or. Portez-vous bien, on se retrouve très très vite. Et puis, allez Lens, eh bien, pour ce match contre Lorient. Dernier petit clin d'œil, bien sûr, on ne les oublie pas, Baptiste et Mathieu. Salut à tous.
Salut à tous.